prononcée par Monsieur le professeur Takahiro Magoka de l'université Nanzan. Son exposé est intitulé « Poésie et regard hétérotopique ». Je me permets de présenter Monsieur le professeur Magoka. Il a soutenu sa thèse en 1985, thèse du troisième cycle, intitulée « Trois aspects du lyrisme hegelien, nature, passé et fantastique ». Et avant même cette thèse, il a écrit en collaboration avec M. Toru Tsuji, Victor Hugo, sa vie et son œuvre. Et dès lors, il ne cesse de se consacrer à ses études, surtout de la poésie hegelienne. Il a écrit plus d'une dizaine d'articles sur ce sujet, et dont on peut citer La mémoire et la conscience de soi, études sur les contemplations de Victor Hugo, article publié en 1989 dans les études de langue et littérature française, numéro 54, et puis un article intitulé « Le poète et la société, solitude dans la multitude » chez Victor Hugo, publié dans une revue nommée « Academia » de son université, publié en 1999. Il y a d'autres articles, mais je m'arrête là et je donne tout de suite la parole à Monsieur le professeur Magoka.
Et franchement, après la gravité du discours de Monsieur Mechnik, ce que je vais dire me semble soudainement très futile, mais je pense. La poésie hegelienne est très souvent une réflexion sur l'art. C'est à travers l'acte d'écrire que Hugo s'interroge sur le fondement et le fonctionnement de sa propre poésie. Comment surgit la voix poétique? Tel est le sujet même de certains de ses poèmes. Dans cet exposé, nous allons analyser un poème et des voix intérieures en le traitant comme une allégorie qui figure un procédé poétique visant à faire sortir la voix à partir du silence du plaisant. Mais avant, nous voudrions commencer par l'examen d'un mot qui nous semble refléter dans sa forme simple la complexité et l'ambivalence de l'acte poétique hegelien. Il s'agit du mot « passant » qui, malgré sa connotation de précarité, est aussi utilisé pour indiquer le poète. Le mot passé est d'une extrême fécondité sémantique, comme d'ailleurs tous les mots d'usage courant. Littré, par exemple, lui consacre 66 rubriques. Par contre, son mot dérivé passant a un champ sémantique assez restreint. Et si on laisse de côté les usages dans les domaines spéciaux, il n'a pratiquement qu'un seul sens, passant, celui qui passe par une rue. Chez Hugo, le verbe passer a une expressivité particulièrement intense. Il exprime d'une manière percutante la condition humaine. Le temps passe, mais ce caractère passager du temps va déteindre, pour ainsi dire, sur des hommes, comme on peut le voir dans ce vers des fruits d'automne. Je cite, « Tous ces jours passeront, ils passeront en feu, mais moi, sous chaque jour, courbant plus bas ma tête, je passe, et refroidis sous ce soleil joyeux, je m'en irai bientôt au milieu de la fête. » Fin de citation. En remarquant ce parallélisme entre le temps et l'être humain, disons que le mot passé désigne un attribut de l'existence temporelle dans le sens littéral du mot, un être en perpétuel écoulement comme le temps. Évidemment, le mot suggère la fugacité de l'être, mais dans la mesure où celui qui est passé entre dans le monde de la vérité, qui est la mort, il suggère aussi la possibilité d'une transcendance. En ce qui concerne le substantif et passant, nous pouvons le repérer dans 15 pièces, dans des recueils de poèmes des années 30. Quoiqu'à première vue, le mot semble être pris au sens propre, et celui qui passe dans la rue, il revêt souvent une coloration particulière, qui attribue à ce mot un caractère plus métaphorique, plus abstrait. Cela est particulièrement vrai lorsqu'Hugo donne au mot une valeur dépréciative. Dans Prélude des chants du crépuscule, où il s'agit des voix du monde, les passants ne possèdent que la clameur, signe de leur insignifiance et de leur précarité. Dans les pièces 4 et 6 du même recueil, le mot connote la frivolité et l'incapacité des gens d'approfondir le sens du monde, leur complaisance envers le pouvoir et envers eux-mêmes. Ainsi conçu, le passant est naturellement opposé au poète. En effet, il en est ainsi dans deux poèmes importants, dans « À lui B » et le passant inscrit des graffitis sur la cloche, symbole du poète. Et dans le poème « À Olympio », ce sont des passants rires qui accablent le poète d'opprobre et d'insultes. Dans ces occurrences, la fonction du mot « passant » est métaphorique, et le mot a perdu pour une large part son sens concret. En effet, dans « À lui B », la strophe sur des graffitis des passants se conclut par une antithèse de deux verbes, « passer » et « demeurer ». Je cite, « Lâche insulte, affront-ville, vain outrage d'une heure, que fait tout ce qui passe à tout ce qui demeure. » Fin de citation. Le passant est celui qui passe, sans pouvoir laisser rien de durable. Cependant, il y a des cas où Hugo attribue à ce mot une valeur nettement positive, car dans quelques poèmes, il devient l'équivalent de poète. Ainsi, dans la pièce 3 des Fruits d'automne, intitulée « Rêverie d'un passant à propos d'un roi », un passant, qui n'est personne d'autre que Hugo lui-même, approfondit sa rêverie sur l'histoire à partir d'une chose vue. De même, dans « À un riche », les passantes sont énumérées à côté des enfants, des poètes, en tant que vrais possesseurs de la nature, en contraste avec le propriétaire qui ne comprend rien à la vraie richesse de sa propriété. Il en va de même pour le poème écrit sur le tombeau d'un petit enfant au bord de la mer, où nous trouvons le vers « Bois qui fait songer de passants sérieux ». Et enfin, les vers de la pièce 2 des Rayons et les Ombres, qui mettent face à face deux personnages, un roi qui vient de censurer une pièce de théâtre et un poète qui s'insurge contre cette censure, et s'adressant au roi comme un prophète, prédit une catastrophe future. Je cite, « L'autre était un jeune homme étranger chez les rois, un poète, un passant, une inutile voix. » Fin de citation. Les passants sont des figures privilégiées des poètes et des rêveurs. Hugo aime à se poser un passant. C'est peut-être à cause de son goût pour les choses vues et de sa pratique de passant, collectionneur de petits faits divers. Cela provient aussi cependant de ce que le mot désigne, un des attributs essentiels du poète. Le poète n'est pas seulement ce qui demeure, comme le dit le poème à Louis B, mais aussi le passant, celui qui passe, au même titre que l'homme éphémère. Et cependant, si la précarité de ce dernier provient de ce qu'il s'en va, sans rien laisser de durable, dans la force du poète passant et dans ce qu'il est de passant, qui, ne faisant que passer dans ce monde, a un certain détachement par rapport à ce monde-ci, ce qui lui permet de ne pas être empêtré dans l'inertie des choses et d'évoquer une autorité de ce qui transgresse et transcende ce monde-ci. Le caractère passant du poète est le signe de son hétérogénéité avec le monde réel. Ainsi, Hugo réalise un renversement total de la valeur du mot qui transforme l'image de la précarité en détenteur d'une authenticité de l'existence. Renversement tel qu'on peut voir s'effectuer dans « Quia pulvices », pièce recueillie dans les contemplations mais écrite en 1842. Dans ce poème, Hugo oppose ce qui passe, c'est-à-dire les morts, et à ce qui reste des vivants, et fait dire au premier la vraie réalité du monde. Je cite, « Vivants, vous êtes des fantômes, c'est nous qui sommes les vivants. » Fin de citation. Nous nous permettons d'ajouter à cela quelques exemples de contemplation. Dans la suite, des mots promis presque au rang des êtres vivants sont qualifiés des passants mystérieux de l'âme. Magnitude au parvis nous présente le pâtre comme passant frêle. Et les mages sont appelés ces sombres passants. Ces exemples nous aideront à bien comprendre ce que ce mot était en train de devenir dès avant l'exil. Évidemment, le mot connote la nuance de précarité, mais il suggère aussi la possibilité d'une transcendance, car ce qui passe dépasse ce monde-ci en passant de l'autre côté. Donc, il y a deux sortes de passants, l'un marqué par la précarité et l'autre fondé solidement sur l'espace de la transcendance. Mais en fin de compte, ce ne sont là que deux faces d'une même réalité qui est d'être dans le temps, dans le perpétuel écoulement du temps. C'est de là que proviennent et la précarité des êtres humains qui passent et la solidité ontologique du rêveur qui est passé de l'autre côté. Le passant et le passé. Est-il osé de dire que ces deux mots-là sont respectivement une forme active et une forme passive du mot passé dans le sens de « le temps passe ». Le passant, en tant que figure du poète, est celui qui agit sur l'écoulement du temps d'une manière active, au lieu de subir l'effet du temps. Voilà au moins ce qu'on peut dire à propos d'une activité poétique exprimée dans le poème à l'Arc de Triomphe. S'il faut choisir d'être un passant, et s'il faut prendre une position marquant une hétérogénéité par rapport à ce monde-ci, c'est parce que le plaisant est marqué par une absence, par le manque d'une voix authentique qui dise et fasse apparaître sa vérité. Le poème à l'Arc de Triomphe montre très clairement cette appréciation négative du plaisant par Hugo. Dans ce poème, le plaisant est symbolisé par l'Arc de Triomphe qui vient d'être inauguré. Or, l'arc y est présenté comme souffrant d'un manque décisif qui est en fait double, Phidias absent et mon père oublié. En ce qui concerne le deuxième élément de cette expression mise à la fin du poème, la signification est claire. L'événement qui a fait écrire ce poème à Hugo est bien connu. Le nom de général Hugo a été omis de la liste des inscriptions sur l'Arc de Triomphe. Quant au premier élément de ce double manque, Phidias absent, il n'est rien d'autre que le symbole condensé de l'effet du temps, car il est écrit au vers 35-36. Et laisser travailler à toutes les statues le temps ce grand sculpteur. L'arc n'est pas encore parfait, n'étant pas encore une ruine. C'est ce principe volontairement paradoxal qui mène le mouvement du poème. Ainsi, l'oubli du père et l'inachèvement de l'arc dépourvu de l'épaisseur du temps sont intimement liés, sans qu'on puisse déterminer lequel est la conséquence de l'autre. Et Hugo de résumer cet état de manque de l'arc comme suit, je cite. Il manque sous ta voûte, tout notre orgueil s'élance, ce bruit mystérieux qui se mêle au silence, le sourd chuchotement des souvenirs confus. Fin de citation. Le présent n'a pas de bruit qui provient de la profondeur du passé. L'essentiel est donc pour Hugo de remédier à ce manque du présent, moralement injustifié et esthétiquement dégradant, et de transformer le monument en une existence ayant une étendue dans le temps. Comment? En la détruisant et en la transformant en ruine par l'effet de son imagination poétique. Le poète fait vieillir l'arc à la place du temps. Il simule l'effet du temps. Décidément, il s'agit d'une vision du passant ou, osons le dire, d'une imagination passante. Ainsi, il recommence à partir de la troisième section la rêverie et la description du temps futur où Paris se taira et où l'arc se transformera en ruine. Alors, nous voyons l'arc mutilé sous l'effet de l'usure du temps, et troué, déchiré, détruit, mais aussi embelli par l'effet du temps, couvert des plantes, envahi par la nature, fusionné avec elle. Ainsi, une prospection imaginaire réalise une vision grandiose de la ruine à venir. Le vœu du poète est-il exaucé? Le manque est-il comblé? Et le but de la vision est-il rempli? Non, parce que la transformation en ruine de l'arc par la prospection n'est pas un but en soi, mais qu'il faut maintenant réactualiser le passé, ainsi désactualiser. Mais pour ce faire, les contemplateurs de futur, imaginés par Hugo, se trouvent devant une difficulté aussi grande que celle éprouvée par le poète devant l'arc du présent, car l'arc de futur est atteint d'une nouvelle sorte de mutisme, conséquence de l'effet destructeur du temps. Le temps, dit Hugo, déchire le livre aux endroits les plus beaux. Pour combler cette lacune, il faut faire une nouvelle opération visant à reconstituer le passé fragmenté et à faire parler de nouveau le passé. Les contemplateurs futurs des vols du passé seront donc obligés de faire une opération exactement inverse de celle du temps. Le vert voile mis par le temps sur la ruine, chercher le héros que le temps a fait disparaître, faire parler Paris à qui le temps a imposé le silence. C'est ainsi remontant le temps et renversant le processus du temps qu'à la fin du poème, les contemplateurs, héros contre-temporels, parviennent à réaliser le réveil du passé. Du présent à l'avenir et de l'avenir au passé, à première vue, il semblerait que Hugo ne fait qu'un parcours inutile pour retourner au point de départ. Mais s'il n'était pas ce parcours, la voie du présent n'aurait pas pu surgir. Certes, en détruisant et en transformant un fragment de présent, le temps le rend plus énigmatique. Mais justement, c'est cette énigmatisation et cette fragmentation du présent qui déclenche les activités du contemplateur pour interroger le passé, pour faire ressusciter le passé. La voix du présent ne se fait entendre que par une rétrospection dans la prospection. C'est seulement, je cite, « quand ma pensée ainsi, vieillissant ton attique, te fait de l'avenir un passé magnifique. » Et fin de citation. Que Hugo peut admirer l'arc et se réconcilier avec le présent pour transformer le présent inerte en passé plein de latence de la voix vigoureuse. Donc, c'est une imagination doublement passante, pour ainsi dire, qui est mise en œuvre dans le poème à l'arc, pour faire parler le présent dépourvu de voix. Or, chose intéressante, on peut voir dans Sunt lacrima elerm, poème recueilli également dans les voix intérieures, un procédé qui fait pendant à celui de à l'arc de triomphe. Ces deux poèmes, d'une longueur et d'une longueur presque égale, occupent une place symétrique dans le recueil, respectivement deuxième et quatrième place, précédés tous les deux par un poème assez court. Tout se passe comme si Hugo voulait particulièrement insister sur les correspondances de ces deux poèmes. Au niveau du contenu, c'est assez clair. Les deux poèmes traitent un thème édipien, l'un chantant la mort du roi, l'autre déplorant l'oubli du nom de père. Mais ce que nous voudrions remarquer de commun entre ces deux poèmes, c'est l'existence d'une opération à la fois semblable et contrastante concernant le temps. Nous avons dit que ces deux pièces sont placées au début du recueil d'une manière hautement stratégique. Or, le poème liminaire du recueil se construit sur une antithèse entre les grandeurs de ce siècle et l'épouvante du poète devant l'affaiblissement de l'écho de la voix du Christ. Insistant ainsi sur l'opposition entre le présent et le passé et sur le manque de la voix du présent, il préfigure et le silence de l'arc et le silence des sombres canons dénoncés dans Sunt lacrima elerm. En effet, le poème Sunt lacrima elerm, lui aussi, commence par une constatation de l'absence d'une voix, une voix qui aurait dû dire « Un roi vient de mourir », verset 16. Or, devant ce silence du présent sur la mort de Charles X, le poète se place dans le passé où les trois enfants de Louis XIV vivaient dans le bonheur et dans une parfaite innocence. Alors, une voix surgit, cette fois, du futur, et prédit la catastrophe qui attend les enfants innocents. Je cite, « Enfants, vous serez rois tous trois. » Et la voix prophétique aurait pu dire encore, « Enfants, dans votre aurore, afin que votre aurore est une triste aurore, que des sceptres et pour vous sont d'odieux présents. Devient donc que le Dieu qui punit Babylone vous fait apparaître éclore au pied du trône. Et qu'avez-vous donc fait aux pauvres innocents ?» Fin de citation. Ce qui est mis en œuvre dans cette partie du poème est une opération diamétralement inverse à celle de l'arc. Au lieu d'imaginer un futur à partir duquel un regard se dirige vers le passé, Hugo se place cette fois dans le passé et fait prophétiser par une voix le présent actuel. Ainsi, le poète éclaire d'une lumière singulière le caractère insolite et l'absurdité fondamentale de l'histoire. Quoi de plus naturel que des événements de l'histoire une fois accomplis? Tout semble s'enchaîner d'une manière tellement inévitable. Mais une fois qu'on voit le présent à partir du passé, au lieu de voir le passé à partir du présent, l'aspect change totalement et l'histoire devient exorbitante. Se situer dans le passé pour faire parler du présent, telle est la démarche de Hugo dans Sunto la clima erme. Ainsi, le présent se fantomise, car cette opération transforme le présent en avenir, et l'avenir est un fantôme. L'avenir, fantôme aux mains vides, dit le vers 229, comme la voix du passé est celle d'un revenant. En fin de compte, le prophète est ainsi. Il est caractérisé autant, sinon plus, par sa nature hétérotopique que par l'exactitude de sa prophétie. Car selon la définition même de Hugo dans la fonction du poète, je cite, « il », c'est-à-dire le poète, est l'homme des utopies, pied ici, les yeux ailleurs. Fin de citation. Nous voudrions remarquer ce dernier mot de la fonction du poète comme un des mots-clés de la poésie hugolienne. Le poète est celui qui vient de l'ailleurs et qui transforme le « ici, maintenant » en « ailleurs », que ce soit Mazeppa ou que ce soit mon esprit épouvanté de la pente de la rêverie. En somme, le poète est un esprit passant qui réalise une transformation hétérotopique du monde. La manipulation poétique du temps est un des procédés visant à réaliser ce déplacement hétérotopique. En effet, dans les deux poèmes ici analysés, la poésie devient soit un regard prospectif dans la rétrospection, soit un regard rétrospectif au sens de la prospection. En paraphrasant l'heureuse expression de Pierre Arbouy dans Hugo Fantôme, selon laquelle Hugo ne vit l'histoire qu'en exil, disons que Hugo ne vit le présent que de l'ailleurs. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il ait voulu éviter les problèmes actuels pour s'enfermer dans une quelconque utopie, soit nostalgique, soit rénovatrice. Sa vie a amplement prouvé le contraire. Sa vision n'est pas utopique, mais hétérotopique. C'est un regard qui va vers l'ailleurs pour ensuite revenir de cet ailleurs. Nous avons emprunté ce mot hétérotopique à André Brochu, qui l'a utilisé dans son livre « Hugo, amour, crime, révolution » dans un sens un peu différent du nôtre. Brochu entend par l'hétérotopie un espace de la contemplation, un espace hétérogène, hallucinant, contradictoire, où, je cite, « les contraires sont commutables et la conscience errante ne trouve aucun point de repère sûr. » Fin de citation. Ainsi, Brochu ne s'intéresse pas au problème du déplacement, mais cela revient au même, parce que, en fin de compte, un regard hétérotopique transforme le présent, espace de la vie quotidienne, et où le sens est apparemment évident, en hétérotopie, espace visionnaire où le sens est remis en question d'une manière fondamentale et où les choses déstructurées et fragmentées perdent une signification préétablie et faussement évidente pour présenter son aspect insolite. Pour finir, nous allons réfléchir encore une fois sur ce que ce regard hétérotopique essaie de réaliser dans l'arc, dans le poème consacré à l'arc, car il nous semble important d'insister sur ce qu'implique ce besoin du retentissement du passé, retentissement que le présent de l'arc ne saurait offrir, et que le parcours imaginaire au long de l'axe du temps va extraire du présent, métamorphoser un passé de l'avenir. En effet, nous avons parlé du principe qui a servi de point de départ au poème, principe selon lequel le présent souffre d'un manque tant qu'il ne parvient pas à posséder le passé. Il faut dire que c'est une manière très particulière de concevoir l'être, mais cela n'est ni une simple fantaisie, ni un paradoxe provocateur, loin de là, c'est un fondement même de la poésie lyrique hugolienne. La pièce 35 des chants du crépuscule nous parle du même manque du présent, de la même impossibilité pour le présent de faire retentir le bruit du passé. Dans cette pièce, Hugo rend hommage à sa femme, incarnation de la fidélité, en caricaturant les autres en contraste. Et ceux-ci sont caractérisés comme suit, je cite, « Quand il pense une heure au gré des passions, rien de lointain ne vient de derrière lui, retentir dans l'idée à cette heure suivie. » Fin de citation. Si ces autres sont dépourvus de retentissement du passé, c'est parce qu'ils sont des êtres qui appartiennent exclusivement au présent. Le poème développe cette même idée sous une autre forme. Je cite, « Le présent les absorbe en sa brièveté. Ils ne seront jamais et n'ont jamais été. Ils sont, voilà tout. » Fin de citation. Être pleinement, ce n'est pas seulement être dans le présent, mais être à travers le temps. Toute existence pleine doit incarner dans son être l'épaisseur du temps, sans l'appui de laquelle même son présent ne saurait subsister et exister dans le vrai sens du terme. Que signifie d'être à travers le temps pour la conscience humaine? C'est de ne pas se contenter d'être. C'est d'être pleinement conscient de son existence en tant qu'être temporel, qui ne peut se réaliser et réaliser son unité que dans le temps. En somme, la pleine conscience de soi n'est pas seulement la conscience de la présence de soi, mais celle de son étendue à travers le temps. Et pour que cette pleine prise de conscience soit réalisée, il faut, par le souvenir, incessamment réactualiser le passé dans l'immédiateté de la conscience. Deux, l'importance du thème de souvenir, de la mémoire et de l'oubli dans la poésie ivoirienne, dès ses premiers ouvrages jusqu'à ses dernières années, dont le point culminant est sans aucun doute la publication des Contemplations, cette mémoire d'une âme. Dans un fragment, Hugo remarque que, je cite, « Être pour la créature intelligente, c'est comparer perpétuellement ce qu'on a été avec ce qu'on est. » Fin de citation. Donc, loin d'être une simple évocation nostalgique du passé, loin d'être une attitude sensuelle de goûter de nouveau la saveur fade de ce qui a été déjà vécu, le souvenir est avant tout un acte ontologique, dont l'enjeu n'est rien d'autre que la possibilité pour la conscience de se saisir dans sa vraie dimension. Mais paradoxalement, et par un paradoxe que le poème sur l'arc a illustré avec des images grandioses, cette perpétuelle confrontation du passé et du présent produit la fragmentation de la réalité et la nécessité de la recomposition de ces fragments par ses œuvres. Car le moi étant une entité qui existe à travers le temps, l'intégrité du moi ne pourrait se saisir une fois pour toutes. Et au fur et à mesure que le temps passe, l'image de soi se construit, se déconstruit et se reconstruit sans cesse. Le choix d'être dans le temps entraîne nécessairement le thème de fragments, bien que ce soit un choix pour saisir une image plus englobante de soi. Donc, c'est par une perpétuelle remise en question de soi que le moi ivoirien parvient à se saisir en tant qu'être pleinement temporel. Quelle est la modalité de cet être temporel? Voilà justement l'enjeu de l'aventure poétique d'Hugo. Mais au moins, une chose est certaine, c'est que cet être doit se situer aux antipodes de ces autres et décrit dans le poème cité plus haut, qui ne seront jamais, qui n'ont jamais été et qui sont seulement. En effet, le pape de magnitude au parvis, dont nous avons dit qu'il est qualifié passant frêle, est justement celui qui, à force d'approfondir la rêverie, parvient à cette conviction. J'étais, je suis et je dois être. Être en passant, c'est passer comme le temps, c'est-à-dire incorporer dans son être l'écoulement du temps même et condenser dans son présent l'épaisseur du temps. Être en passant et avoir un regard hétérotopique, ce n'est en fin de compte que deux faces d'une même prise de position. C'est d'un côté assumer la manière d'être pleinement une conscience humaine qui se réalise dans le temps, et de l'autre, essayer de saisir les choses dans leur manière d'être en tant qu'existence temporelle. Voilà sans doute pourquoi la mémoire est toujours au centre de la poésie ivoirienne. Merci beaucoup.
Je vous remercie, monsieur le professeur, de votre communication tout à fait passionnante. Ou en partant de l'analyse du mot passant et celui du passé, vous avez parfaitement indiqué une interprétation possible des spécificités importantes de la poésie ivoirienne. Donc, j'ouvre tout de suite la discussion à l'auditoire si vous avez des questions à poser à monsieur Marouka.
Oui, merci beaucoup de cette réflexion sur le passant. Alors évidemment, ça donne envie de faire une chose qu'il faut peut-être pas faire, qui est de comparer. On ne peut pas ne pas penser à Musset, qui désirerait éperdument être ce jeune homme qui passe, ou bien sûr encore plus à Baudelaire, son poème à une passante qui se termine au toi que j'eusse aimé, au toi qui le savais, c'est-à-dire que ce mot passante est employé par d'autres poètes contemporains de Hugo, enfin avec un peu d'écart entre les deux, comme un désir éperdu d'altérité, un désir éperdu de l'autre ou d'être l'autre, alors que Hugo l'emploie dans la dimension que vous avez montrée, qui est une sorte de tangente, pas vers l'autre, mais le long du temps et du passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en rapport?
Justement, je ne pense pas que, donc dans cette image de passant, Hugo veut exprimer son désir de devenir une autre personne. C'est tout à fait différent. C'est plutôt garder ça, c'est un moyen de garder ou bien retrouver l'intégrité de sa propre personne. Donc je pense que c'est tout à fait autre chose. Est-ce que j'ai bien répondu à cette question?
Bon, est-ce que Nicole Savy, vous avez d'autres questions? Vous avez quelque chose à lui dire? Oui.
Je voudrais ajouter un mot sur cette analyse de passant, parce que c'est un peu, en fin de compte, on pourrait penser que ce n'est qu'une sorte de métaphore et on n'a pas de raison pour insister sur la particularité de ce mot. Mais pour justifier mon procédé qui consiste à donner à la forme substantive d'un mot et le sens de la forme verbale, je voudrais évoquer une indication de Lucius Keller. Et il parle du néologisme de la forme EUR. Et, par exemple, Keller relève d'un dieu des expressions telles que choisisseur de redoutable lutte ou couveur d'hypothèses. Et il ne s'agit pas simplement de ces mots forgés de toutes pièces, mais aussi des mots acceptés par des dictionnaires, mais dont l'usage sont plutôt rares. Par exemple, regardeur formidable de puits, plongeur du puits et de chaos, marcheur de là, buveur de la coupe des rois, etc. Je crois que Monsieur Durnet lui aussi a indiqué un usage un peu particulier du mot éclaireur. Et dans un poème, ce mot est utilisé non pas dans le sens de soldat envoyé en reconnaissance, mais celui qui éclaire. Simplement. Donc je crois que l'abstraction de ce mot passant s'insère dans cette série du néologisme. Et c'est-à-dire que le contexte de l'œuvre réactive ce mot banal pour lui faire signifier en étroite liaison avec la forme verbale. Et voilà pourquoi j'ai pensé possible d'essayer d'interpréter ce mot d'une manière un peu particulière. Donc je pense que le mot passant n'est pas une métaphore, mais c'est plutôt une sorte de néologisme.
Bon, tout à l'heure, vous avez levé la main, Monsieur Duché, c'est à vous maintenant.
Il se trouve que le hasard des choses vient de vous faire prononcer mot passant, que ça me fait penser à un livre de Bonnefils qui, commentant le nom de Maupassant, a toute une réflexion sur le passant. Non, Maupassant. Bon. Mais je laisse ça, c'est la définition du propre selon Bonnefils, on est très loin. Ce qui m'intéressait en y pensant à Bonnefils aussi, c'est le sens. Je ne sais pas si vous l'avez si j'ai bien tout à fait compris tout, sur le sens moderne du passant, parce qu'il y a un sens urbain de passant. Je veux dire que le passant et les passants qu'il rencontre, Hugo est un passant de la ville. Dans Chose vue, j'ai rencontré plusieurs fois le mot avec ce sens, en mettant l'accent sur le fait que le participe passant au participe présent, on reste. C'est tout le temps, je veux dire, passé est une sorte d'activité permanente, et notamment du piéton de Paris. En fait, c'est un terme qui apprend dans les années 1850 vraiment une sorte de réalité du quotidien, de la vie quotidienne, comme si ça transformait le citoyen, le poète, en une sorte de passant éternel. C'est d'ailleurs à l'origine de la réflexion de Walter Benjamin sur les passages, Passagen. Donc je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas aussi ce sens immanent, quelque part, ce sens très très moderne, récupéré par toute une vision moderne de l'homme dans la cité, dans l'emploi du mot passant, enfin, et le verbe passer, etc., chez Hugo. Quelquefois, en tout cas, le terme rencontre un peu cela, une forme de présence au monde, dans un monde qui, à travers lequel on passe et qui passe autour de vous, c'est lié évidemment à l'idée d'une marche, mais aussi à un regard en permanence éveillé sur les choses.
Je pense que cet aspect du problème est très important, mais franchement, je n'ai pas pensé, lorsque j'ai analysé ce mot dans mon texte.
Bon, et si vous n'avez pas d'autres questions, nous arrêtons maintenant, puisque l'art prévu est venu. Et,